Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, 18h37, Thomas Soto, vous recevez Vincent Jauvert, il est grand reporter à l'Obs. Son livre Les Voraces sortira jeudi chez Robert Laffont.
Bonsoir Vincent Jauvert.
Bonsoir.
Bienvenue dans RTL Soir. J'ai une question toute simple pour commencer. Qui sont, selon vous, ces Voraces ?
Eh bien, ce sont les hommes politiques, les hauts fonctionnaires qui passent plus de temps à gagner de l'argent, à accroître leurs revenus, qu'à défendre les intérêts des Français. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas très nouveau. Ça a pris un élan particulier depuis l'élection d'Emmanuel Macron.
Pourquoi ?
Eh bien, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays, en tout cas de la Ve République, que nous avons au sommet de l'État des hommes qui ont fait des allers-retours entre le secteur public et les secteurs privés plusieurs fois.
Le pantouflage.
Le pantouflage et le rétro-pantouflage. Mm-hmm. Et qui donc incitent à confondre l'intérêt public avec l'intérêt privé. Mm-hmm. Nous en sommes là et ils sont imités désormais par des hauts fonctionnaires, des politiques de droite comme de gauche.
Pourquoi vous dites confondre ? Parce que finalement, quand on n'est plus en responsabilité, on peut retourner dans le privé ou ailleurs pour travailler. Pourquoi vous dites qu'il y a une confusion de ces intérêts ?
Parce qu'il ne s'agissent pas de n'importe quel privé. Les entreprises qui les embauchent, pourquoi les embauchent-elles ? Ce sont des entreprises qui sont très formatées par l'État et qui ont besoin de gens qui peuvent les introduire dans l'État, qui peuvent leur révéler les secrets de l'État, les faiblesses de l'État, qui ont des réseaux dans l'État. Et c'est pour ça qu'ils embauchent ces hauts fonctionnaires.
Donc ils deviennent des chevaux de Troie en quelque sorte ?
En quelque sorte, oui. Et si c'était des entrepreneurs, ça ne poserait aucun problème, mais ce sont des intermédiaires entre l'État et les entreprises privées. C'est ça qui pose problème.
Alors, vous citez plusieurs cas, et notamment le cas d'Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. 2 ans après avoir quitté le Quai d'Orsay, il va travailler pour LVMH. Vous pensez que les politiques n'ont pas le droit à une vie professionnelle après ?
Si, bien sûr, mais pas n'importe laquelle. Pourquoi a-t-il été embauché chez LVMH ? J'aimerais bien qu'LVMH dise pourquoi à l'époque. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui...
Peut-être parce qu'il le trouve compétent.
Peut-être aussi parce qu'il peut ouvrir des portes du fait de son ancien job. Et à ce moment-là, il met au service d'une entreprise privée ce qu'il a obtenu à travers l'État. Mmh. D'ailleurs, il est probable, possible qu'aujourd'hui...
Mais est-ce que ce n'est pas un procès d'intention que vous faites finalement ? Parce que finalement, chacun se construit dans sa vie, construit son réseau, son carnet d'adresse, quelle que soit sa profession. Et plus on avance, plus on a une valeur qui est une valeur professionnelle.
Et vous trouvez normal, par exemple, qu'un conseiller d'État responsable du fisc au Conseil d'État devienne du jour au lendemain avocat fiscaliste ? Vous trouvez normal qu'un haut fonctionnaire à Bercy, spécialiste du fisc, également devienne du jour au lendemain avocat fiscaliste ? C'est-à-dire qu'il connaît les faiblesses de la loi, c'est lui-même qui les a écrites. Je pense que ça pose problème.
Vous employez le terme faiblesse de la loi. Aujourd'hui, la loi n'est pas... Parce qu'il y a eu pas mal de lois. Il y a eu des lois sur le non-cumul des mandats pour les élus, il y a eu les lois sur la transparence de la vie publique, etc. Tout cet arsenal législatif aujourd'hui, il n'est pas suffisant, il n'est pas efficace ?
Non, il n'est pas suffisant, en particulier concernant le lobbying. D'ailleurs, la Haute Autorité de la Transparence et Publique l'a dit, l'OCDE l'a dit encore récemment. Trop de hauts fonctionnaires, trop d'hommes politiques passent directement du service public au lobbying. Et ça pose évidemment un problème, là encore, de confusion d'intérêts privés.
C'est le cas de Levoix qu'on a vu il y a quelques temps ou pas ? Ça peut rentrer là-dedans ou pas ?
Non, il cumule, il fait partie de ses voraces, et combien. Mais lui, non, je ne crois pas qu'il ait fait du lobbying en tant que tel.
Alors vous citez beaucoup d'exemples, Benoît Paru, ancien ministre du logement de Nicolas Sarkozy, à qui vous reprochez d'avoir un job en plus d'être maire de Châlons-en-Champagne, mais lui il dit je gagne 2 480 euros net par mois en tant que maire, c'est pas suffisant.
Oui, et après avoir juste dit que normalement dans sa ville, gagner 2000 euros par mois c'est tout à fait suffisant pour partir en vacances et acheter un appartement. Je ne lui reproche pas, je ne suis pas d'accord avec votre expression, je constate simplement que pour beaucoup ils sont en décalage avec les Français, c'est tout ce que je dis.
Vous citez également Dominique Bussereau, Jean-Marie Le Guen, Michel Sapin, Rachida Dati, Jean-François Copé, ça tape à droite et à gauche. Comment vous l'expliquez ? C'est-à-dire qu'on est dans un système qui perdure, vous dites qu'il s'aggrave depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, mais qui existe depuis des années dans la classe politique. On mélange un peu tout, on touche un peu à tout, tout ça est un peu flou.
Prenez l'exemple du maire de Toulouse, M. Moudinck.
Ancien maire, donc ?
Non, toujours.
Pardon, maire.
Il est toujours maire de la 4e ville de France. 700 000 habitants ou 500 000 habitants, c'est gros, c'est important. Est-ce que vous savez qu'il est aussi haut fonctionnaire à Bercy, à Paris, qu'il est contrôleur général des finances et donc il doit avoir un job à plein temps aussi à Paris ? Il a été nommé par Nicolas Sarkozy. C'était le début de ce genre d'opération il y a quelques années. Ça pose problème, on s'interroge. Le présidentiable à droite, M. Barouin, savez-vous que non seulement il est maire de Chalon,
de Troyes. De Troyes, il est président de la métropole, président de l'Association des maires de France, membre de divers conseils d'administration.
Lobbyiste d'une banque d'affaires et avocat dans un grand cabinet d'avocats à Paris. Ça fait beaucoup. Comment font-ils tous ces gens-là? Il y a bien des choses qu'ils font mal et on espère que ce n'est pas le service du public.
C'est difficile de réussir à remonter le fil de toutes ces rémunérations ou pas?
Oui, c'est difficile, bien sûr. Il y a heureusement aujourd'hui la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique qui oblige certains d'entre eux, pas tous, à révéler leur salaire passé et actuel. Mais dans d'autres cas, évidemment, il faut enquêter. Oui, c'est pas facile.
Est-ce que c'est une spécificité française? Est-ce qu'il n'y a qu'en France que ça se passe comme ça?
Oui, la confusion des élites économiques, politiques et administratives à ce point, oui, c'est une spécificité française. Rendez-vous compte que là encore, notre Premier ministre, notre Président de la République cumulent les trois. Ils sont à la fois aux fonctionnaires, l'un est conseiller d'État, l'autre inspecteur des finances, élite politique et ô combien, et aussi on fait partie de l'élite économique, ils étaient banquiers d'affaires et avocats d'affaires. Donc c'est une spécificité tout à fait française. Oui.
Et donc aujourd'hui on ne connaît pas les revenus de la haute fonction publique. Hein.
Alors figurez-vous qu'une loi était passée, le Parlement avait voté pour que toutes les élites révèlent, publient leur rémunération et leur conflit d'intérêts. Le Conseil constitutionnel, qui est tout de même l'arme de la haute fonction publique, a retoqué ceci uniquement pour la haute fonction publique. Donc, elle ne doit pas révéler son salaire. Autrement dit, un modeste conseiller régional doit révéler ses conflits d'intérêts et ses salaires passés, alors que le secrétaire général de l'Élysée n'est pas tenu de le faire.
Et on apprend dans votre livre qu'il y a 600 hauts fonctionnaires qui gagnent plus que le chef de l'État aujourd'hui.
En effet, notamment à Bercy.
Le chef de l'État, c'est combien aujourd'hui, à peu près?
13 000 euros net, à peu près, par mois.
Par mois, avec quelques frais qui sont pris en charge.
Ah, bah, bien sûr. Enfin, François Hollande avait baissé le salaire du président de la République de 30%.
Oui, 30%. Est-ce que vous diriez que pour certains aujourd'hui, l'argent compte plus que le pouvoir?
Il semblerait, oui. Il semblerait aujourd'hui que, du fait de cet accroissement considérable des revenus, notamment de leurs copains de promotion qui sont allés dans le CAC 40 ou ailleurs, ils se disent, pourquoi pas moi? Et ça crée, là encore, donc des conflits d'intérêts. Il faut que ça cesse si on ne veut pas que les Français sombrent dans le populisme.
Justement, est-ce que vous craignez pas d'alimenter un peu le robinet du populisme?
Non, pas du tout. Non. Au contraire, mon livre est un livre qui incite à une démocratie plus morale. Je voudrais que l'on prenne des lois comme des députés de droite et de gauche que je raconte dans le livre et ont essayé de faire avec le gouvernement Philippe. Ils n'y sont pas arrivés en matière de transparence des rémunérations, en matière de lobbying. Ils n'y sont pas arrivés. Il faut que le gouvernement accepte de le faire. Sinon, justement, ces dérives que je décris, les Français le sentent bien, vont nourrir le populisme. Ce n'est pas le fait de les révéler, c'est le fait de le faire, bien sûr.
En tout cas, le livre est passionnant, on apprend beaucoup de choses. Ça s'appelle donc Les Voraces, il sortira jeudi chez Robert Laffont. Merci Vincent Jauvert d'être venu le présenter en avant-première dans RTL Soir. Merci à vous.
Merci. RTL Soir, Thomas Soto, 18h45.
Dans un instant, c'est leur choix, change de nom et devient le kiosque d'RTL Soir. Je m'en étrangle, mais rassurez-vous, nos kiosquiers restent les mêmes. Catherine Boulay, Julia Molcou et Christian Ménanteau. Un peu d'eau et on revient.
Thomas Soto, RTL Soir. Les résultats.